Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, fin du suspense. Bruno Le Maire rejette toute idée de hausse d'impôts. Il explique pourquoi. Seb et ses poils Tefal accusés d'utiliser des polluants éternels. Le groupe agite la menace de l'emploi si on lui imposait de changer de formule. Et puis, alors que le chômage stagne en France, on verra pourquoi l'emploi des cadres continue de progresser. Ces derniers temps, quand Bruno Le Maire prenait des positions publiques, on ne savait pas toujours si c'était le ministre de l'économie qui parlait ou bien le potentiel candidat à la présidentielle. Mais ce matin, la tribune qu'il publie dans Les Échos est on ne peut plus clair au sujet des débats du moment sur les finances publiques. Le ministre s'exprime au nom du gouvernement et le dit clairement, Éric Mauban, nous n'augmenterons pas les impôts.
Absolument. Bruno Le Maire tient à faire taire les voix d'une partie de la classe politique qui veut redresser les comptes publics en augmentant la pression fiscale. Il rappelle qu'en France, 10% des contribuables paient les trois quarts de l'impôt sur le revenu, que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 est toujours en place, que le taux marginal des prélèvements atteint 60%, soit un record en Europe. Bruno Le Maire souligne par ailleurs avoir mis en place une taxe sur les géants du numérique et un impôt minimum mondial sur les multinationales. Pas question pour le ministre de renier le pouvoir d'achat des ménages qui aurait pour conséquence de freiner ainsi toute l'activité économique du pays. En matière de recettes fiscales, la marge de manœuvre est selon lui désormais réduite. C'est donc sur les dépenses publiques qu'il faut désormais agir afin de les diminuer et les rendre plus efficaces.
Éric Mauban en direct. Hier, l'agence de notation Fitch a estimé que les objectifs du gouvernement sur le déficit étaient peu ambitieux et de plus en plus hors de portée. Mais elle ne devrait pas dégrader à nouveau la note de la France. Elle l'a fait il y a un an. À ce stade, sur les marchés, la France emprunte toujours à des taux raisonnables. 2,92% sur 10 ans. L'Allemagne, en comparaison, est un demi-point plus bas, 2,40. Les marchés financiers qui, hier, ont fini dans le rouge, Dow Jones, Nasdaq et CAC 40 ont chacun reculé d'1%. Le CAC a clôturé à 8130 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul de 0,65%. L'euro vaut 1,0777. Le pétrole, le baril de Brent, est à 89$. À propos du pétrole, Total Energy a gagné 4% hier, atteignant son nouveau record historique avec une clôture juste sous les 66€ l'action, ce qui représente une capitalisation boursière de 159 milliards d'euros pour Total Energy. Hier, Tesla, en revanche, a déçu et perdu 5%. Déçu, voire inquiété, avec des ventes et une production en baisse sur ce premier trimestre 2024 par rapport au même trimestre en 2023. David Barou nous expliquera ce qui cloche en ce moment chez Tesla dans son décryptage à 8h05. Le Sénégal est-il en passe de se séparer du franc CFA? Cela paraît symbolique, mais c'est important, intéressant. C'est en tout cas l'une des promesses de campagne du tout nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye. La question n'est d'ailleurs plus taboue en Afrique francophone. Elle est même exhibée fièrement par les classes politiques au Mali, au Burkina ou encore au Niger. Mais pour le moment, cela reste une simple éventualité. Enterrer le franc CFA est plus compliqué que prévu. Il s'agit de retrouver une forme de souveraineté monétaire et faire une croix sur le passé colonial français. Pourquoi pas trouver de nouveaux partenariats? C'est ce qu'explique l'économiste Émilie Lefiteau.
Au niveau de la symbolique, effectivement, il s'appelle toujours le franc CFA. Donc, on pourrait s'attendre à le souhait de changer déjà de ce nom qui rappelle cette relation tutélaire à la France. Le deuxième argument, c'est de dire que cette monnaie commune est arrimée à l'euro, à un niveau qui serait surévalué par rapport à la réalité de la compétitivité prix de cette région. Mais on voit également qu'il y a un rapprochement avec la Russie et ça sur également des aspects plus géopolitiques. Il y a un souhait de diversification, en tout cas des partenariats.
Émilie Lafitteau avec Éric Kioch. Le groupe SEB contre-attaque. La direction de l'entreprise d'électroménager appelle ses salariés à manifester aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. C'est rare, une manif à l'initiative des patrons. Objet de leur courroux, une proposition de loi écologiste examinée demain à l'Assemblée qui veut réduire l'exposition aux PFAS, ces composés qu'on appelle aussi les polluants éternels et qui sont potentiellement dangereux pour la santé. Ils restent massivement utilisés par l'industrie chimique. SEB utilise des PFAS dans la production de ses fameuses poils Tefal. Mais le groupe nie toute dangerosité et estime que cette proposition de loi menace 3000 emplois dans les prochaines années. Zoé Pallier.
3000 emplois, c'est presque 10% de nos effectifs, alerte la direction. Elle craint pour l'avenir de deux sites, en Saône-et-Loire et en Haute-Savoie, là où sont produites les poils Tefal. Stanislas de Gramont, directeur général du groupe SEB.
Les deux sites en question exportent 2/3 de leur production. Donc si on interdit le produit que nous utilisons pour recouvrir nos poils, ces volumes à l'exportation seront perdus. Quant au volume sur le marché français, nous adapterons nos revêtements avec des revêtements céramiques, mais ce sera plus coûteux.
La coupable, c'est l'entreprise entreprise, elle n'a pas assez anticipé pour se transformer, tacle quant à elle Agnès Naton, secrétaire régionale de la CGT. Elle dénonce un chantage à l'emploi.
Si il y a des process qui permettent de produire de l'inox, de la céramique, pourquoi ne le font-elles pas? C'est comme le scandale de l'amiante. On a des entreprises qui, en plus de mettre les salariés en situation de risque, utilisent les ouvriers pour masquer leurs responsabilités.
Mais les salariés sont divisés. Certains manifestent aujourd'hui avec la direction. Il faut nous laisser le temps de nous adapter, estime le délégué de la CFE-CGC, le syndicat majoritaire. Inadmissible pour lui d'interdire l'épiphase avant l'Union européenne qui étudiera la question en 2026.
Zoé Pallier. L'économie ralentit très fortement. Le chômage repart à la hausse, mais pas pour les cadres. Bonjour Gilles Gâteau.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Vous prévoyez 2% de hausse des recrutements de cadres l'an prochain. Dans le contexte, c'est une performance. Comment vous l'expliquez?
Alors c'est vrai que c'est une performance. Elle nous a même un peu surpris. Pour dire la vérité, à l'APEC, on s'attendait à une prévision des entreprises un peu plus en demi-teinte. Là, elle reste prudente. On est presque au même niveau que 2023 qui s'est terminé il y a peu. Mais rien que ça, c'est déjà dans un contexte de ralentissement économique, un signal très fort pour les cadres et pour les besoins que les entreprises ont de recruter des cadres et des ingénieurs. C'est comme ça que nous l'expliquons. La transition énergétique, la transition numérique, il y a des enjeux très forts. Les entreprises sont conscientes que pour les réussir, elles ont besoin de compétences. Et donc, c'est pas là-dessus qu'elles font le sacrifice, entre guillemets, de réduire la voilure. Au contraire, elles ont le sentiment que ces besoins sont incontournables. Donc, ça met les cadres, les emplois très qualifiés d'une façon générale dans une position forte, même dans un contexte de ralentissement économique.
Alors, dans le détail des secteurs qui embauchent plus que les autres, en tendance, il y a tout ce qui est lié à la transition écologique en particulier.
Alors, ce que l'on voit cette année, c'est que, comme d'habitude, on a les gros bataillons d'emplois, cadres, ingénieurs, qui sont dans ce qu'on appelle les services à forte valeur ajoutée. C'est quoi? C'est l'informatique, c'est l'ingénierie, la R&D, les activités comptables et de conseil. Tous ces secteurs-là sont en forte croissance, plus 8% en termes d'embauche en 2023 et restent forts en 2024. Mais ce qui est notable, qui nous a beaucoup frappé aussi dans l'enquête, c'est la bonne santé de l'industrie du point de vue de l'emploi cadre ingénieur, plus 15% d'embauche cadre ingénieur l'année dernière. Donc il y a clairement un effet de cette transition énergétique, transition numérique. Je prends un seul exemple dans le secteur de l'énergie, de l'eau et de la gestion des déchets. C'est plus 38% l'an dernier en 2023, les embauches cadres. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui est forte. Et puis il y a aussi un effet de rattrapage post-Covid qui s'est fait dans les autres secteurs, on va dire en 2022 et 2023 et dès 2021 et qui a été un peu plus lent à faire dans l'industrie parce que la crise, notamment dans l'aéronautique ou l'automobile, a duré un peu plus longtemps, on va dire, que le retour à un rythme d'embauche plus important se concrétise seulement en 2023, mais de façon forte puisque c'est plus 15% sur les emplois de cadres ingénieurs dans l'industrie.
On comprend que côté entreprise, c'est toujours assez difficile de recruter. Alors qu'est-ce qu'elles font, Gilles Gâteau, pour attirer les talents?
Alors, c'est l'autre constat que nous faisons dans cette enquête, c'est que les tensions de recrutement, elles diminuent un petit peu. On était monté à des taux de 80-82% de difficultés. On est redescendu, entre guillemets, autour de 72%, mais ça reste très élevé. Et donc, l'attractivité des emplois, l'attractivité de l'entreprise, ça va toujours reposer sur un mélange de bons salaires. Ça reste, malgré tout, le premier critère aujourd'hui de choix d'entreprise pour les cadres comme pour les jeunes diplômés, mais presque à égalité, l'intérêt de la mission, les conditions de travail, le sens, on pourrait dire, des missions qui sont proposées, qui ont beaucoup progressé ces dernières années dans les critères de choix et qui arrivent un peu en dessous du salaire aujourd'hui, mais pas très loin comme deuxième condition. Donc il faut jouer sur toute la palette pour se différencier sur un marché qui reste très très favorable pour les candidats et où les entreprises se battent finalement pour attirer les candidats.
Merci Gilles Gâteau, patron de l'APEC avec nous sur Radio Classique. Et puis après le marché de l'emploi des cadres, le marché de l'art. Passionnante chronique de Natacha Valla un peu plus tôt dans cette matinale. Si vous l'avez raté à 6h20 en direct, c'est à retrouver en podcast sur l'application Radio Classique. Vous recherchez les classiques de l'économie.